RMC Motors avec Motorsport TV. Jean Lecroix.
Allez, on est parti pour une heure de motors, une heure de sport mécanique. Et une fois n'est pas coutume, eh bien le Grand Prix, non, il n'est pas à venir. Il a déjà eu lieu, ce Grand Prix de Malaisie, le 15e de la saison. On espère que vous étiez avec nous entre 9h et 11h ce matin. En tout cas, Adrien Tambay, lui, il était là. Il est toujours là. Salut Adrien.
Salut Jean-Luc, salut à tous.
Et puis, on vous dit tout. On doit essayer de récupérer Louis Amar et Patrick Tambay dans un instant. Donc, on va avoir évidemment d'autres analyses sur ce Grand Prix de Malaisie. Comme je le disais, on va commencer par un élément positif ou négatif, c'est selon les cas, Adrien. On craignait pour certains et on souhaitait pour d'autres des conditions météo un peu plus difficiles. On a vu ce que ça donnait à Singapour. Il n'y en a pas eu. On est resté avec au beau fixe, on va dire.
Oui, effectivement, il y a eu une grosse averse avant la course le matin, mais ensuite la piste a eu le temps de sécher et on a eu une course assez classique quelque part, sans vrai rebondissement. En tout cas, un Max Verstappen très très solide et puis un Lewis Hamilton un peu dépassé par la Red Bull aujourd'hui et une belle remontée de Sébastien Vettel.
Absolument, on va revenir en analyse sur tout ça et la bonne nouvelle c'est qu'on a récupéré Louis Amar qui a quelques difficultés avec sa ligne en Malaisie. Salut Louis.
Salut, bonjour à tous.
Bon, écoute, on va te garder le temps qu'on pourra. Et puis, la très bonne nouvelle, c'est qu'on a récupéré Patrick Tambay aussi. Bah, vous voyez, tout va bien. Salut, Patrick. Oh,
salut. Bonjour, bonjour, messieurs. Salut, Adrien.
Allez, Patrick, je vais commencer avec toi. Évidemment, je suppose que tu étais avec nous ce matin sur l'antenne de RMC pour écouter ce Grand Prix de Malaisie. Alors, on savait les Red Bull performantes aux essais. On l'avait vu. On avait vu Hamilton sortir un tour de folie. Voilà la belle deuxième victoire de Max Verstappen. Et celle-là, on a l'impression qu'il l'a presque appréciée plus que la première.
Parce qu'elle venait faire une série de méconvenus, déconvenus qu'il a dû subir depuis le début de la saison. S'il avait eu une monoplace fiable depuis le début de l'année, je pense qu'il serait peut-être dans une position bien différente au championnat.
Eh oui, c'est clair, effectivement, Patrick. Louis, on a vu que Verstappen, effectivement, n'a attendu que 4 tours pour prendre l'avantage sur Lewis Hamilton après un excellent départ du poleman. Après, la question, c'était de savoir s'il allait capable de tenir ce rythme aussi longtemps. Louis ?
Oui, pardon alors, Jean-Luc, excuse-moi, oui. J'ai les pires difficultés à
écoute, alors on va la faire simple et courte. Écoute, je disais juste que Verstappen a passé Hamilton au 4e tour. On ne savait pas s'il pouvait tenir le rythme pendant tout le Grand Prix. Il a démontré que oui.
Et oui, il l'a démontré, et c'est d'ailleurs la deuxième fois qu'il fait ça, avec une victoire au bout. On peut se souvenir que lors du Grand Prix de Barcelone en 2015, qu'il avait déjà remporté, il avait laissé Kimi Raikkonen batailler derrière lui pendant une vingtaine de tours. Et là, c'est à peu près la même chose qu'il a fait, mais pendant l'ensemble d'un Grand Prix, en bâtissant secteur après secteur, tour après tour, un écart de plus en plus conséquent, jusqu'à le stabiliser autour de 9 secondes. Et c'est ça la grande performance de Max Verstappen, finalement, c'est sa maîtrise, alors que Lewis Hamilton derrière lui, même s'il avait un moins bon rythme, continuait de cravacher.
Patrick, la première victoire, c'est toujours une émotion particulière. Évidemment, on en a souvent parlé sur l'antenne de RMC avec toi. La deuxième, elle est peut-être encore meilleure parce que cette fois, tu sais ce que ça fait.
Oui, ça dépend des circonstances dans lesquelles ça se produit. Bon, pour moi, dans mon cas personnel, c'était toujours beaucoup d'émotions. Oui. Parce qu'il y avait une situation générale, ambientale, comme dirait le commandateur, particulière.
Bien sûr.
Une victoire à Hockenheim après l'accident des Pironites.
Bien sûr.
Au sang marin après les histoires que l'on connaît. Donc ça servait un sentiment tout à fait différent. Mais Verstappen, lui, je pense qu'il n'a pas trop de sentiments comme ça. Lui, il va pour gagner à chaque fois. Il tape dans le matériel. Et que si ça tient pas, et ben tant pis pour Red Bull.
Eh ben oui, effectivement. Alors tant pis pour ce qui se passe. On va l'écouter justement, Max Verstappen, Max le Hollandais volant, au micro de Louis Amar après cette deuxième très très belle victoire lors du Grand Prix de Malaisie.
C'est encore mieux que ma première victoire, parce que j'avais eu beaucoup de chance. Là, j'ai gagné parce que j'avais un meilleur rythme. Dépasser Hamilton était très important, parce qu'ensuite, j'ai pu mener ma course comme je le voulais, ménager mes pneus, attaquer quand je le sentais, maintenir l'écart. Et c'était super, parce que ça ne m'était encore jamais arrivé en F1. Donc c'est une victoire très spéciale. Ma saison était décevante jusque-là, avec beaucoup de malchance. Mais là, ça l'embellit.
This makes it a lot better.
Adrien, effectivement, de toute façon, le potentiel, il l'avait depuis très longtemps. Verstappen, il était généralement un peu plus rapide que Ricciardo aux essais, mais en course, il avait eu du mal à démontrer tellement il avait été accablé jusque-là.
Bah oui, beaucoup de malchance depuis le début de la saison pour Max, et on sait que c'est un pilote qui en veut, qui est toujours très agressif en piste, mais de la bonne manière. Et puis bah pour l'instant, oui, il a pas eu de réussite, que ça soit sur le plan mécanique, technique, mais aussi sur les incidents de course, comme on a vu à Singapour, où il a été pris en sandwich par les deux Ferrari, et le fait de gagner aujourd'hui complètement à la régulière. Sur le sec, il a construit sa course, il a passé Hamilton de façon très autoritaire dès le début, et puis ensuite il a complètement géré. Ben ça confirme tout le bien qu'on sait déjà, mais surtout ça doit lui enlever un bon poids sur les épaules, parce que tout simplement en sport mécanique et puis en Formule 1 surtout, on a beau être estimé, on a beau penser le meilleur de Max Verstappen, tant que le résultat n'est pas là, on est toujours mis en défaut et mise en difficulté. Donc là, aujourd'hui, la victoire, il l'a eu, et c'est une belle victoire.
Et c'est une belle victoire qui porte son total à 93 points. Alors évidemment, il est encore assez loin de Kimi Raikkonen, le pauvre qui n'a pas pu défendre ses chances. Kimi Raikkonen, qui n'a même pas pris le départ. Patrick, là, on peut dire que c'était un peu le week-end de malédiction pour Ferrari. Après le fait que Vettel n'ait même pas pu signer un temps en qualification, Raikkonen totalement privé de Grand Prix.
Oui, on a beau chercher et essayer de comprendre. Difficile à admettre quand on voit le niveau de fiabilité des Ferrari jusqu'à présent. Maintenant, pour aller justement chercher Hamilton, il va falloir prendre des risques, et peut-être que la Ferrari en prend trop sur le plan de la préparation, et c'est ce qui explique peut-être aussi la petite contre-performance d'Hamilton, qui lui devait gérer au contraire son résultat. Donc les Ferrari en difficulté parce qu'elles cherchent à gagner, et la Mercedes, eh bien, un petit peu maintenant en gestion.
Eh oui, un petit peu en gestion, effectivement. On peut dire, Louis, que le carton est presque plein pour l'équipe Red Bull Renault, puisque Ricciardo, lui aussi, a fait une très belle course, même si, évidemment, elle a été un petit peu mise sous l'été noir par rapport au succès de Verstappen. Mais Ricciardo a été solide, et il a su repousser l'attaque de Vettel en fin de course.
D'abord, Ricciardo a su se défaire de Valtteri Bottas, comme Max Verstappen a su se défaire de Lewis Hamilton. C'est ça, le premier fait d'arme de l'Australien dans cette course. Et puis ensuite, il a fallu en effet résister au retour de Sébastien Vettel, qui était de plus en plus pressant. Daniel Ricciardo a terminé la course avec des pneus soft. C'était la stratégie inverse pour Sébastien Vettel, qui avait chaussé des pneus super soft, donc théoriquement des pneus plus performants. Il revenait derrière Daniel Ricciardo. Plusieurs fois, il a tenté d'attaquer, notamment une fois dans le grand virage à l'issue de la ligne droite de départ arrivé, le virage numéro 1. Ça n'est pas passé, et puis ensuite ses pneus se sont usés. On a cru même à un moment dans cette course que Daniel Ricciardo allait être en mesure d'aller chercher Lewis Hamilton devant lui. Ça, finalement, c'était un petit peu compliqué, et la troisième place est un beau succès, un beau résultat pour lui, qui s'était imposé l'an dernier et qui décidément aime bien cette piste.
Eh oui, il aime bien cette piste, effectivement. Le pilote australien Daniel Ricciardo qui monte à nouveau sur le podium. Il a fallu qu'il le défende bec et ongle. On va l'écouter au micro de Louis Amar, justement, Daniel Ricciardo.
Évidemment, dès que j'ai passé Bottas, je me suis concentré sur Hamilton pour la deuxième place. J'espérais encore au fond de moi la victoire, mais le rythme de Max était vraiment excellent, donc je ne pouvais pas rivaliser avec lui. Ensuite, je me suis dit que je pouvais aller chercher Hamilton, mais j'ai compris que la seule chose que je pouvais faire, c'était défendre ma troisième place, parce que Vettel revenait très fort. Je l'ai fait, je suis heureux, je n'avais pas le rythme pour gagner, donc un podium de plus, ce n'est pas trop mal.
Ouais, c'est plutôt très bien, même en tout cas pour Daniel Ricciardo, qui s'est bien débattu. On va revenir à la F1 dans un tout petit instant, si vous le voulez bien, mais juste après avoir retrouvé Julien Landry du côté de Montpellier-Brive, parce que je crois que c'est la mi-temps. Salut Julien.
Salut Jean-Luc, exactement, c'est la mi-temps à l'Altra Stadium, et le match de midi où les brivistes, ça leur plaît pas trop. Ils en avaient pris 50 l'année dernière, et je pense que cet après-midi on devrait arriver vers les mêmes eaux. Ça fait 33-3 pour le MHR, déjà 5 essais, un doublé de Nadolo, un doublé de Bismarck Duplessis. C'est une après-midi difficile pour les Brivistes qui n'ont pas gagné encore un match de la saison et qui se déplaçaient chez le leader avant la journée. Forcément, ça devrait être long pour eux, mais voilà, il va falloir. En tout cas, ils sont courageux, ils se défendent fièrement, mais ça risque d'être une longue après-midi. Il serait mieux à vous écouter, j'imagine, Jean-Luc, parce que là, pour eux, c'est vraiment pas rigolo. 33-3 pour le MHR.
Effectivement, et j'espère qu'ils nous écoutent pas d'ailleurs. Il vaut mieux qu'ils se consacrent à leur match. J'ai pas de conseils à leur donner, mais ça va être chaud sinon la deuxième mi-temps. Allez, un troll, les gars, on y va. Bon, on revient à la F1. Là aussi, on va être un Trolsch. Mais pour parler, évidemment, après avoir écouté Daniel Ricciardo, Patrick, est-ce que tu crois que finalement les Red Bull Renault pourraient venir perturber ce duel dont on a tellement parlé entre Mercedes et Ferrari?
Bah ça, en cette fin de saison, probablement, oui, quand même, quelques occasions, parce qu'on ne va pas retrouver des Mercedes et des Ferrari aussi mal lotis à chaque fois. Je crois que, selon moi, le problème, c'est la limite des pneus. Les pilotes se conduisent en fonction du comportement du pneumatique. C'est ce qui explique que Ricciardo, qui était en retenue, se soit lâché sur la fin pour mettre un petit peu de distance entre lui, la Ferrari et lui.
Eh oui, bien sûr, bien sûr. Alors, Louis, on va revenir évidemment sur les différentes questions. Je sais pas si on pourra te garder très longtemps, hein, parce que je sais que c'est un peu difficile les conditions dans lesquelles tu travailles là, avec la ligne. On entend beaucoup de fritures. Je sais pas comment on dit la friture en Malaisie, mais on entend beaucoup de bruits bizarres. Oui, tu es toujours avec nous, Louis. Donc tout va bien.
Je suis toujours là. C'est bon. Compliqué, mais on est là. En fait, pour ne rien vous cacher, les techniciens malaisiens, on peut le dire, ont décidé de couper la ligne par laquelle on se parle proprement d'habitude, comme ça, sans en avertir personne. Donc c'est pour ça qu'il y a un peu de friture.
Ah ben comme ça, écoute, c'est parti, comme ça. Heureusement qu'il reste des lignes téléphoniques hein, qui fonctionnent. En tout cas, voilà. Nous, on arrive à bien t'entendre et à bien te comprendre. Alors, on va en arriver, on va l'écouter un petit peu plus tard. On va en arriver, évidemment, à ce qui s'est passé chez Mercedes, avec un Lewis Hamilton qui, sur le podium, avait l'air un poil résigné. Il a dit d'ailleurs qu'il fallait travailler chez Mercedes, parce que là aussi, s'il est parvenu à sauver la deuxième place, la cinquième de Bottas doit faire comprendre que effectivement, la cinquième, je dis bien, il y a du boulot à faire.
On l'a perdu.
Bah, on va le retrouver. Les techniciens ont peut-être des idées de couper le.
Non, je vous entends, mais c'est très compliqué. Je vous entends à peu près un mot sur deux, messieurs.
Ah, alors, la question était, est-ce que.
Parce que. Mais si tu veux, je vais réagir, Jean-Luc,
bah,
si Louis, tu as entendu après, tu peux rebondir. Valtteri Bottas, qui a connu vraiment un week-end compliqué, il a été un peu transparent, et puis on a appris qu'il a bénéficié d'une update, d'une mise à jour au niveau du package aérodynamique chez Mercedes, qu'ils ont utilisé les deux pilotes à partir du vendredi matin, et puis à la suite des essais libres, Hamilton, qui n'était pas satisfait du comportement global de sa voiture, est revenu en arrière et a demandé à ce qu'on remette la voiture comme elle était à Singapour.
Et c'était
le bon choix, manifestement. En tout cas, il a été capable de faire la pole position et nous sortir à nouveau un formidable tour. Et pour Valtteri Bottas, alors on ne sait pas si en interne la décision a été prise par Mercedes, parce qu'on a besoin d'accumuler des tours avec ce nouveau package et d'avoir des données aussi techniques là-dessus, mais on pense plutôt que Valtteri Bottas a décidé de garder le nouveau package. Est-ce que c'est ça la réponse à sa contre-performance, en tout cas la raison de sa contre-performance? Je ne suis pas sûr. Je pense qu'il a depuis 3-4 courses un peu de difficulté par rapport à un Hamilton qui est vraiment au-dessus du lot, qui arrive à conduire cette voiture avec son style de pilotage merveilleusement bien, surtout en qualification, et oui, qui arrive à nous surprendre à chaque fois, parce que je pense que l'avantage que Mercedes a aujourd'hui, enfin avait à l'époque, au début de la saison, ils ne l'ont plus aujourd'hui, même sur des circuits comme ça, classiques, où l'empattement de la Mercedes serait un avantage.
Oui, c'est peut-être moins manifeste effectivement cet avantage, s'ils en ont toujours un. En tout cas, on a vu que les performances des Ferrari étaient parfaitement au niveau, puisque le temps de Raikkonen, il faut bien se baser sur celui-là, Louis, si tu m'entends, le temps de...
Oui,
de,
je t'entends.
Parfait. Le temps de Raikkonen était vraiment un souffle. Hein. On a vu qu'il s'était raté dans le dernier virage en qualif. En course, et j'insiste là-dessus, bah peut-être Raikkonen pouvait remporter ce Grand Prix, ou en tout cas être devant Hamilton.
En tout cas, c'est l'avis de la majorité des pilotes que j'ai pu voir après la course. Parce que même Lewis Hamilton nous dit, si Kimi avait été là, il aurait sans doute gagné. Les Red Bull disent, en absence de Kimi Raikkonen, on pouvait gagner, mais si Raikkonen avait été là, ça aurait été extrêmement compliqué. Et les patrons de Ferrari se sont lamentés, évidemment, toute l'après-midi, de l'absence du Finlandais, parce que c'était une vraie chance de victoire. C'est quand même assez surprenant, cette bonne forme des Ferrari ici, parce qu'on attendait plutôt les Mercedes à leur avantage sur ce tracé, avec deux longues lignes droites, avec des grandes courbes, avec beaucoup d'appui.
et on se disait que ce tracé convenait mieux aux flèches d'argent, et pourtant, sur l'efférence des faits libres, ce sont les Ferrari et un petit peu les Red Bull qui ont dominé, et le rythme en course l'a prouvé, les Ferrari et les Red Bull étaient largement supérieurs aux Mercedes ce matin.
Allez, on va terminer cette première partie de Motor, cette analyse, ce retour sur le Grand Prix de Malaisie avec Patrick, et c'est nouveau dans l'émission, on a la question du profane. Alors, je me tienne à l'écart, mais je te la pose telle que on nous la propose. Verstappen est-il un grand pilote dans une bonne voiture, ou bien est-ce que c'est un bon pilote dans une grande voiture? Alors, est-ce que cette deuxième victoire, elle est due plutôt au pilote ou plutôt à la voiture, à ton avis?
Qui, moi?
Oui, bah oui. Je te pose la question.
Je pense que dans le cas présent, on va dire que il faut de toute façon une bonne voiture pour un bon pilote. C'est ouais. Obligatoire, c'est pas une réponse de Normand, mais enfin bon, c'est
oui.
un très bon pilote dans une mauvaise voiture. On voit avec Alonso ce que ça
voilà.
peut donner.
On a le bon exemple, effectivement. Donc il faut les deux, comme tu le dis. Et puis après, il faut les circonstances, hein, puisqu'on a vu que Verstappen était en mesure peut-être de s'imposer dans le passé, mais comme il avait pas la voiture qui fonctionnait, il pouvait rien faire. Hein. Ça c'est
et pour
clair.
Pour Bottas, par exemple, de faire le bon choix technique sur le package aérodynamique dont Adrien nous parlait, il n'a pas vraiment fait le bon choix.
Effectivement. Eh oui, et il a apparemment pas fait le bon choix, ou on l'a obligé à ne pas faire le bon choix, comme le évoquait Adrien. Oui. Impeccable. Je te remercie beaucoup, Patrick, d'avoir été avec nous. Je sais que c'est pas facile non plus. Écoute, merci pour ton analyse. C'est toujours très sympa de t'avoir dans le cadre de ces Grands Prix. Bonne journée à toi. Et puis, on va se retrouver très vite, hein, puisque c'est le Grand Prix du Japon dès le prochain week-end.
Bye bye.
Allez, salut Patrick. On va essayer de garder Louis si on le peut. On a encore des sons à vous faire écouter puisque il a rencontré pas mal de pilotes. Vous êtes dans Motors, dans le retour sur le Grand Prix de Malaisie, le 15e de la saison. Vous restez avec nous.
RMC Motors avec Motorsport TV. RMC Motors. Jean Lecroix.
Vous savez ce qui me fait sourire, c'est peut-être une journée sans voiture dans Paris, mais nous on a des bruits de moteur sur l'antenne de RMC, et c'est un vrai moteur dans cette émission Motors, et ça continuera, je l'espère en tout cas. Allez, après la première partie, on a parlé évidemment de Max Verstappen, la deuxième victoire de sa carrière de pilote de Formule 1, et la première cette saison évidemment, plus de 2 ans et demi après sa première victoire surprise, c'était à Barcelone lorsqu'il venait d'intégrer l'équipe Red Bull. Il faut parler maintenant de la lutte pour le titre évidemment, puisque c'est surtout vers ça que nous étions tournés. On a gardé Louis avec nous. Tu es toujours là, Louis?
Absolument, je suis là, je t'entends.
C'est un plaisir. Et donc, Louis, on a vu Lewis Hamilton, effectivement, gérer peut-être en quelque sorte. Il n'a jamais été très loin, entre 8 et 10 secondes de Verstappen, mais manifestement, il n'avait pas les armes. Alors, est-ce qu'on est déjà entré dans une phase de gestion pour Lewis Hamilton?
Eh ben c'est bien possible, parce que Lewis Hamilton, il savait, évidemment, c'est un vorace, il aimerait, si possible, gagner toute la course, si possible, avec 25 secondes d'avance, ça c'est une évidence, mais simplement, il savait qu'en étant deuxième, et d'ailleurs il l'a dit tout à l'heure, il savait qu'en étant deuxième, il faisait une bonne opération, à la fois dans cette course et au classement général provisoire du championnat du monde. Ça veut dire qu'il avait le choix entre essayer d'aller chercher Verstappen, aller à la bagarre, mais éventuellement endommager sa mécanique, prendre de trop gros risques, ou alors, comme tu l'as dit, gérer, ne pas être trop loin de Verstappen, certes, ménager l'écart qu'il avait avec Daniel Ricciardo pour verrouiller la deuxième place, et attendre tranquillement de voir où allait terminer Sébastien Vettel. C'est ce pari-là que semble avoir fait le Britannique, et ce pari, on ne peut plus lui donner raison. Il est absolument gagnant. Parce que ce soir, Lewis Hamilton, il a 281 points, ouais. Sébastien Vettel, il en a 247, l'écart s'est encore accru, et évidemment, il a fait un pas de plus vers le titre de champion du monde, même si on en est encore très loin.
Ah ben c'est clair, je crois que tu as parfaitement résumé, effectivement, il a géré à partir du moment où il a vu que Verstappen était très décidé. On peut rajouter un mot avant d'écouter Hamilton, Adrien, c'est que Verstappen, intelligent comme tout, a dit j'ai fait une attaque tranchante sur Hamilton, je savais que lui il jouait le championnat, pas moi.
Effectivement, il avait rien à perdre, Max Verstappen, et puis il savait que Lewis Hamilton, lui, tout à perdre, au contraire. Maintenant, management, oui et non, pour Lewis Hamilton, je pense que comme tu le disais, c'est une fois qu'il a vu que Max Verstappen était trop rapide qu'il s'est résigné et qu'il s'est contenté de gérer cette deuxième place avec l'expérience qu'il a. Maintenant, s'il avait pu aller gagner, ouais. il y serait allé, et c'est la gestion malgré lui.
La gestion malgré lui. On va écouter Lewis Hamilton au micro de Louis Amar, justement, expliquer cette deuxième place. Mais comme l'a résumé Louis, effectivement, elle lui permet d'augmenter son avance au championnat à 34 points.
Je crois que c'est un très bon résultat, puisque les autres étaient beaucoup plus rapides. Si Raikkonen avait participé à la course, il aurait probablement gagné. Si Vettel était parti en meilleure position, il aurait sûrement terminé devant moi aussi. Donc je m'en sors bien, j'ai donné mon maximum comme d'habitude. Et dans ces circonstances, c'est un très bon résultat, y compris pour le championnat. Mais on a encore du boulot, parce qu'on n'est pas assez rapide.
Eh oui, c'est pour ça qu'il a mis la pression sur son équipe, hein, et qu'après ce Grand Prix dont on pouvait penser a priori, surtout après cette pole extraordinaire quand même, il avait sorti un tour formidable, que Mercedes était bien, bah finalement on doit reconnaître qu'en course il y en avait qui étaient mieux qu'eux. Et puis il a eu l'honnêteté, Hamilton, de dire, Adrien, que si Vettel avait été là et si Raikkonen avait été là, certainement les deux Ferrari terminaient devant lui.
Mais quand on parle de spirale positive et de réussite, ben elle est du côté d'Hamilton pour l'instant, ouais. Depuis un certain temps, certes il nous fait des performances extra, il se met dans cette position là, il attire la chance bien comme
oui,
il faut.
Encore s'installer sur l'épaule, hein.
Voilà, exactement. Mais aujourd'hui, il avait pas la voiture pour rivaliser contre Red Bull et contre Ferrari. Il a été dans des positions où en performance il était clairement au-dessus, et là c'est un peu une surprise, parce qu'en Malaisie, sur ce circuit qui est encore une fois classique et qui sur le papier aurait dû convenir à cette Mercedes, comme le disait Toto Wolff, il y a des, à mon avis, ils vont devoir étudier le pourquoi du comment, parce qu'ils sont un peu perdus, en tout cas depuis le début du week-end ils étaient un peu perdus. 12 secondes 7 de retard sur Verstappen, c'est plus que de la gestion, encore une fois
c'est inhabituel. Alors, pour avoir un Grand Prix aussi passionnant, Louis, il fallait évidemment une remontée canon, et c'est Vettel qui nous l'a offert, hein, puisqu'il est parti dernier sur la grille de départ avec une stratégie décalée et une stratégie qui a très bien fonctionné, même s'il a parfois buté sur quelques adversaires, Louis, et notamment sur un certain Fernando Alonso autour de la 10e place.
Oui, c'était surprenant d'ailleurs de voir Sébastien Vettel et son moteur Ferrari peiner à dépasser Fernando Alonso, qui lui détenait à bord de sa McLaren Honda la 10e place. C'est vrai que le choix stratégique de Ferrari, qui était un peu un choix par défaut, hein, parce qu'il fallait nécessairement tenter un coup stratégique dans la mesure où Vettel partait si loin, s'est avéré payant. Commencer avec Tost pour faire un premier long relais. La petite déception peut-être pour la Scuderia, c'est de ne pas avoir réussi à faire sortir Vettel, ou à faire passer Vettel au moment où Hamilton est rentré au stand. C'était ça le pari, Vettel réussisse à passer Hamilton quand celui-ci s'est arrêté. Bon, ça a été un petit peu juste, ça s'est pas joué à grand-chose, mais ça n'a pas suffi, parce que Vettel n'avait pas réussi à dépasser Valtteri Bottas quelques minutes auparavant. Néanmoins, en terminant en super soft, en lui permettant de remonter très vite, très fort, en signant le départ canon qu'il a signé, Ferrari a clairement limité les dégâts, et c'est une victoire stratégique de la Scuderia, même si elle ne se traduit pas par un podium ou par une victoire.
Oui, on a vu, tu as raison de le souligner, que c'est passé fin, hein, c'était à 2-3 secondes près, pas plus, mais évidemment la résistance qu'on a opposée, que les autres pilotes ont opposée à Vettel, elle a finalement bien servi, en tout cas Lewis Hamilton. On va écouter Sébastien Vettel, donc le quadruple champion du monde, à propos de ce Grand Prix échevelé pour lui, où il a attaqué du début à la fin.
C'est très positif, parce qu'on avait une bonne vitesse, notre voiture était clairement la plus rapide. On aurait pu gagner, mais évidemment partir dernier m'a compliqué la tâche, et puis Kimi n'a pas eu de chance non plus. Donc si on ne regarde que le classement, ce n'était pas un bon Grand Prix, mais notre vitesse est prometteuse et dans l'ensemble je suis content du résultat, mais évidemment ça aurait été bien de finir sur le podium.
Alors évidemment, c'est toujours délicat, Adrien, de parler de chance en Formule 1. La chance, ça se provoque, hein, évidemment, ça s'organise. Mais on peut dire que malgré cette très belle quatrième place de Vettel, le balancier, il est, semble-t-il, sur les derniers Grands Prix, plutôt vers Mercedes. D'abord, bon, il y a ce qui a été acquis sur la piste, hein, c'était Spa-Francorchamps, c'était Monza, on l'a rappelé, c'était Singapour, où là, c'est vraiment Ferrari et ses pilotes qui ont foiré, on va dire. Là, c'est la technique qui les a handicapés, ce ne sont pas les pilotes qui ont commis des erreurs. Il va falloir que le balancier reparte dans l'autre sens si on veut rééquilibrer les chances.
Oui, ça fait un certain temps. Après, c'est mathématique, c'est aussi les opportunités, la réussite et la roue tourne. Il reste 5 grands prix pour Sébastien Vettel et Ferrari pour que celle-ci tourne dans leur sens. Pour l'instant, il fait son boulot. Sébastien Vettel, il a fait une erreur à Singapour au départ, mais c'était un incident de course. Là, aujourd'hui, il fait une course formidable. Il remonte en quatrième position depuis la dernière sur la grille. Donc, voilà, il faut serrer les dents, il faut essayer de continuer à travailler dans le bon sens, il faut travailler à l'usine pour comprendre les problèmes qui sont survenus sur le moteur, sur le bloc, sur la machine de Vettel, mais aussi sur la machine de Kimi Raikkonen. Ça va être compliqué parce qu'il y a qu'une semaine avant le Japon.
Et on est loin de ses bases.
Est loin de ses bases. Et je pense, comme le disait papa tout à l'heure, que Ferrari fait vraiment le maximum pour en performance, même au niveau du moteur, pour se rapprocher de Mercedes. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'on voit Ferrari plus proche de Mercedes en cette fin de saison, peut-être au détriment à un moment donné de la fiabilité.
Et c'est clair qu'il faut produire l'effort. Oui, ça, tu as raison. Et Patrick aussi, bien évidemment, il n'y a pas le choix. Parce que si Ferrari voulait conserver ses chances et veut conserver ses chances, on va pas dire que c'est plié. Hein. Simplement, mathématiquement, Louis, et l'analyse, elle est très simple. Hein. Avec 34 points d'écart alors qu'il reste 5 Grands Prix, ça voudrait dire, tout ça est très théorique, Louis, mais ça voudrait dire que Hamilton pourrait lâcher 7 points par Grand Prix à son adversaire direct, Vettel. Ça veut dire que si Vettel remportait les 5 Grands Prix, ce qui est évidemment son objectif, eh bien Hamilton pourrait se contenter d'être 5 fois deuxième. Évidemment, c'est théorique, mais ça fait mal quand même, Louis.
Oui, mais il n'empêche qu'avec 34 points d'écart, vraiment, Ferrari a limité les dégâts. Ça aurait pu être terrible. À l'issue des Grands Prix de Singapour et de la Malaisie, le titre aurait quasiment pu être joué, ou en tout cas, Sébastien Vettel n'aurait plus du tout son destin entre les mains. Là, 34 points d'écart, c'est un moindre mal. Et évidemment, il faut comprendre que Sébastien Vettel manie un petit peu la langue de bois quand il nous dit que c'est un bon résultat. Il y a un petit peu de méthode Coué derrière tout ça. Il s'agit aussi de ne pas démobiliser l'équipe en s'avouant déjà vaincu. Mais il y a un petit fond de satisfaction quand même pour lui, parce que ça aurait pu être un dimanche absolument terrible. Admettons que Lewis Hamilton l'ait emporté et que Vettel n'ait pas réussi à remonter autant qu'il l'a fait, ben là, ça aurait été cuit quasiment tout simplement pour l'Allemand. Alors que là, il y a encore un petit espoir. En revanche, il faudra impérativement gagner pour Sébastien Vettel au Japon dès la semaine prochaine. Ça sera ça l'enjeu majeur pour l'Allemand. Gagner au Japon pour continuer à exister dans cette lutte et aussi compter sur son équipier, compter sur Kimi Raikkonen pour mettre des bâtons dans les roues de Lewis Hamilton. Là, c'était déjà le cas depuis le début de saison, mais plus encore que jamais, Raikkonen peut être dévoué tout entier au service de son équipier pour tenter de le hisser jusqu'au titre.
Eh oui, ça c'est vrai que l'idéal c'est toujours de gagner, hein, parce que l'écart est de 7 points avec le deuxième quand même, compte tenu de l'attribution, 25, 18, 15, et après l'écart est beaucoup plus limité, 15, 12, 10, faut-il le rappeler. Donc évidemment, si on veut combler ce handicap, il faut gagner, et puis il faut espérer que quelqu'un puisse se mettre entre le vainqueur, qui pourrait être Vettel et Hamilton en l'occurrence, et Raikkonen est le plus désigné. Tiens, à propos de Vettel, on a vu une image apparaître sur les écrans, là aussi c'est anti-radiophonique, mais on vous l'a décrit évidemment aussi fidèlement que possible, avec la roue arrière de la Ferrari pliée, reposée au-dessus du capot moteur. Alors on s'est demandé un moment ce qui s'est passé. On a entendu quelques noms d'oiseaux dans la radio à l'adresse de Stroll, de Lance Stroll, le jeune pilote canadien, qui termine également huitième ce Grand Prix de Malaisie. On va écouter l'explication de Lance Stroll à ton micro, Louis, justement, sur cette collision, en quelque sorte, après la ligne d'arrivée.
C'est un tour d'entrée, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait, et c'est comme il fait encore la course. Mais c'est fini le course, je comprends pas pourquoi il m'a essayé de me doubler sur l'extérieur comme ça, je comprends pas.
Alors effectivement, si on veut résumer, Adrien, on a compris qu'ils allaient tous les deux chercher des boulettes de gomme, hein, c'est ça, sur le hors de la trajectoire, mais l'un l'a fait sans regarder si l'autre arrivait encore.
Oui, clairement, quand la course est finie comme ça, on est à deux à l'heure et on finit le tour de rentrer au stand. On essaye effectivement d'accumuler tous les dépôts de gomme possibles sur les pneus.
Alors, expliquer pourquoi. Oui, c'est parce qu'on pèse les monoplaces. Voilà,
pour prendre du poids. Alors parfois, on voit même parfois les pilotes carrément aller dans le gazon. Pour prendre
ramasser
le plus,
tout ce qu'ils peuvent,
voilà, parce que les pneus sont chauds, bien évidemment, et donc
et ramasse tout.
Ça se colle assez
et ça
facilement,
ça peut faire quelques kilos, mine de rien.
Ça peut faire 2-3 kilos à la fin du tour, hein, on se rend pas compte, mais voilà, les deux pilotes étaient plus ou moins faisaient ça, et Lance Stroll était peut-être un peu moins concentré que Sébastien Vettel qui lui allait un peu plus vite. Il a voulu le doubler, et puis Lance Stroll n'imaginait pas arriver par l'extérieur à cet endroit-là, et quand lui a croisé la piste, il s'est accroché. C'est un accident de la circulation.
Un peu
peu malheureux, pas nécessaire à quelques centaines de milliers de voilà.
Oui, ça va coûter. Va falloir réparer, va falloir faire du boulot chez Ferrari. On le disait, Louis, on est loin des bases. Effectivement, bon, c'est plus une anecdote. Hein. Heureusement, ça n'a pas de conséquences. D'ailleurs, la FIA a décidé de ne pas prendre de mesures là non plus, et c'est très bien comme ça. C'est une incompréhension entre les pilotes. Alors, Louis, on va changer de sujet, mais j'ai une question à poser à Adrien, puis je vais donner mon opinion aussi, bien sûr, après. La question du profane, c'est est-ce que c'est plié pour le championnat, ou bien est-ce que tu crois que Ferrari a encore des chances, Louis, de se refaire, et notamment dès le Grand Prix du Japon, dès la semaine prochaine?
J'ai envie de vous dire que Ferrari a encore des chances. J'ai envie de croire que le duel sera intense jusqu'au bout et que Sébastien Vettel peut revenir. Il y a plusieurs choses qui peuvent étayer ça. Par exemple, le fait que Ferrari a peut-être mangé son pain noir le week-end, enfin il y a deux semaines à Singapour et ce week-end en Malaisie. D'abord un terrible accrochage en piste avec les deux pilotes Ferrari dehors avant même le premier virage du Grand Prix de Singapour. Ici, des problèmes techniques et des problèmes mécaniques terribles qui ont accablé à la fois Vettel et Raikkonen. Peut-être que finalement, ça va être au tour de la Mercedes de connaître des ennuis mécaniques. On peut se souvenir que l'année dernière, ici même, on m'a dit que le moteur de Lewis Hamilton avait explosé alors qu'il était en tête de ce Grand Prix qui serait rentré sur Nico Rosberg et que ça a été un tournant de la course au titre. Donc, comme c'est un sport mécanique, il y a cet aléa et c'est pour cela que tant que mathématiquement le titre est jouable, on ne peut pas enterrer Ferrari. Maintenant, si on est lucide, il y a des pistes qui sont quand même très à l'avantage de la Mercedes. On peut penser à Austin, où Lewis Hamilton en plus a déjà conquis un titre, c'était en 2015, et il est très à son aise. On pense au Brésil avec ses grandes courbes rapides qui peuvent a priori plutôt favoriser la Mercedes. On pense à Abu Dhabi où il est extrêmement difficile de doubler, où c'est dur d'aller chercher un titre si on n'est pas déjà dans une position de leader. Autant dire que Lewis Hamilton, s'il ne fait pas d'erreur et si sa mécanique suit, le titre lui tend les bras. Mais c'est pas complètement joué. Il faudra être avec nous au Japon parce que, en revanche, si Vettel ne gagne pas au Japon, là, les amis, je pense que c'est fini.
Ah oui, puis de toute façon, il faut toujours mieux avoir 36 points d'avance à Adrien que 36 points de retard. C'est ce que se disent Hamilton et Vettel. Maintenant, effectivement, on sait qu'on ne lâchera rien, ni au sein de la Scuderia, ni évidemment Sébastien Vettel.
C'est du sport mécanique, comme Louis l'a très bien dit. Il y a aujourd'hui plus de probabilités que Hamilton soit champion que Vettel, parce que tout simplement, mathématiquement, il a un avantage. Et puis la pression est du côté de Sébastien Vettel au jour d'aujourd'hui, parce que il doit vraiment délivrer et gagner le prochain Grand Prix. Maintenant, même s'il venait à ne pas gagner au Japon, tant que mathématiquement c'est pas terminé, il suffit d'un faux pas de Lewis Hamilton et d'une victoire de Sébastien Vettel dans le même temps pour revenir à 9 points. Et ensuite, 9 points, bah c'est
pour le coup, c'est pas grand
pour chose. Le coup, c'est pas grand chose. Donc ça va vite dans un sens, ça va vite dans l'autre. Et sait-on jamais, peut-être que les meilleurs alliés de Sébastien Vettel vont être Verstappen et Ricciardo. en plus de son coéquipier Kimi Raikkonen, parce bien que sûr. Si effectivement la Mercedes a en course des difficultés au niveau de son rythme, parce qu'aujourd'hui on est sur un circuit qui ressemble aux circuits qui vont arriver à quelque chose près, ça va être compliqué pour Lewis Hamilton d'aller gagner les courses. Maintenant, est-ce qu'il va commencer à compter les points? Je pense que c'est quand même un vrai attaquant, donc il va essayer d'aller gagner le plus possible de courses.
C'est toujours pareil. Allez, j'espère qu'on va attaquer du côté de Brive, parce qu'on a un sacré handicap. On avait 30 points de retard à la mi-temps. En tout cas, Julien, c'est ce que tu nous as dit, Julien Landry, du côté de l'Altra Stadium, j'ai bien retenu. Alors j'espère qu'à Brive, on n'écoute pas trop RMC et qu'on est au charbon.
ils sont revenus avec les intentions en tout cas d'attaquer et de recombler le retard. Mais bon, il y a 30 points déjà dans la musette et 33-3 pour les Montpelliérains. 5 essais à rien. Les Brivistes qui en avaient pris 60 du côté de Clermont il y a 3 semaines vont éviter le même affront cet après-midi. Ils sont revenus avec des bonnes intentions ce début de deuxième mi-temps. Mais pour le moment, toujours pas de points marqués ni par les Brivistes ni par les Montpelliérains, même si les Corréziens sont à 5 mètres de la ligne d'essai et s'évertuent depuis 5 minutes à essayer de franchir le rideau montpelliérain qui est pour le moment infranchissable. Jean-Luc, il reste une demi-heure à jouer ici, une demi-heure peut-être pour les Brives pour réaliser un exploit ou en tout cas remporter cette deuxième mi-temps. Les Montpelliérains mènent 33-3, bonus offensif évidemment déjà dans la poche.
Merci beaucoup Julien Landry, on va te retrouver tout à l'heure naturellement pour connaître l'évolution du score et on va se retrouver dans un instant dans Motors pour poursuivre l'analyse de ce Grand Prix de Malaisie. On a notamment beaucoup à vous dire et à vous faire écouter du côté des Français que Louis a bien sûr rencontré. Vous restez avec nous.
RMC jusqu'à 14h. Motors. Jean-Luc Roy.
Eh bien, c'est une chance et une malchance. C'est Louis qu'on doit entendre. Il est toujours avec nous. Donc, c'est une bonne nouvelle. C'est une chance parce qu'il nous reste encore une belle partie là pour parler du Grand Prix de Malaisie et pour écouter les pilotes français. Tiens, bon, on va écouter Louis pour commencer. Avant d'écouter justement le premier d'entre eux, c'est Esteban Ocon. Louis, c'est sympa hein, d'avoir trois pilotes français au départ et à l'arrivée d'un Grand Prix de Formule 1.
Ah oui, c'est génial. Ça fait plaisir. Alors, ça paraît beaucoup trois pilotes français, mais il faut se souvenir qu'il n'y a pas si longtemps, il y en avait encore trois. Hein. Il y avait Grosjean, Jean-Éric Vergne, et évidemment le regretté Jules Bianchi, c'était la saison 2014 et 2015, ils étaient là. Et bon, évidemment, Romain Grosjean nous expliquait par exemple en début de week-end que lui, il avait à peu près tout connu. Il avait connu des périodes où il était tout seul, il avait connu des périodes où il n'y avait pas de constructeur, où il n'y avait pas de Grand Prix de France. Et là, rendez-vous compte, on a trois pilotes français, trois patrons d'écurie français, un constructeur français, et l'année prochaine un Grand Prix de France, ce qui fait que la France est quasiment le pays le plus représenté aujourd'hui en F1. La seule chose qui nous manque, ce sont des podiums et des victoires.
Eh oui.
Malheureusement, aucun des trois, à part peut-être Esteban Ocon, ne semble en mesure d'atteindre cet objectif dès cette année. Mais pourquoi pas la saison prochaine, avec des évolutions, avec de bonnes voitures, avec quelques coups de chance. En tout cas, évidemment, c'est un grand plaisir de voir un paddock qui se met à la francophonie à ce point.
Eh ben tiens, et puis ça nous fait des beaux sons à écouter, justement. Alors, on va l'écouter tout de suite. Tiens, d'ailleurs, le premier, c'est Esteban Ocon. Esteban Ocon qui avait de grosses ambitions en partant sixième, donc, cinquième, puisque Raikkonen n'était pas là, sur la grille de départ, et puis un départ un petit peu difficile, et il a réagi à ton micro, Louis, justement, Esteban Ocon, qui attend de monter sur son premier podium en Formule 1.
Une course désastreuse, hein, clairement. C'est sûr que l'incident du départ avec la crevaison, du coup, ça me ruine un peu ma course, et après, Sainz qui, je sais pas, il bloque et il me touche, donc du coup, deuxième coup, on arrive à finir dans les points quand même avec ça, ça veut dire que la vitesse était superbe, donc voilà, c'est dommage, mais voilà, on va revenir plus fort à Suzuka, ce sera important.
Oui, un Grand Prix très animé, Adrien, pour Esteban Ocon. Effectivement, c'est la raison pour laquelle il s'est arrêté à l'issue de ce premier tour. On a dit, tiens, c'est un coup de stratégie, c'est pas mal du tout. Mais en fait, il avait morflé, comme on dit. Et puis, il a été pris en sandwich entre son équipier Perez, qui pourtant partait de derrière. Et puis, à l'extérieur, il y avait eu une Williams. Mais bon, il s'en sort, hein, comme il le dit, malgré même un tête à queue, il termine dans les points.
Oui, c'est la qualité depuis le début de la saison et puis même avant d'Esteban Ocon, c'est qu'il arrive à toujours terminer ou et en plus dans les points là,
il est solide, hein.
un seul petit point, mais quand même il y est. Ça avait très mal débuté, comme tu l'as dit, ce Grand Prix, un contact au premier virage, ensuite des bagarres ici et là. Il a quand même poussé fort tout au long de cette course et il a rien lâché. Au final, malgré ce blocage et cette petite erreur de Carlos Sainz qui l'envoie lui en tête à queue, il finit dixième, une fois de plus dans les points, premier des Français. Donc
premier des Français.
Voilà, certes avec la meilleure voiture des trois, mais il est là et comme il le dit, il faut qu'il switch la concentration sur le prochain Grand Prix maintenant.
Et oui, et il termine et dans les points encore, il termine encore le Grand Prix et il termine encore dans les points, Louis. C'est un véritable exploit. La constante d'Esteban Ocon est absolument remarquable dans ce monde de la Formule 1.
Exactement, il est le seul avec Lewis Hamilton à avoir terminé toutes les courses cette saison, Esteban Ocon. Et puis il n'y a qu'une seule course qu'il n'ait pas terminée dans les points, c'était à Monaco. Oui. Il avait terminé 12e, mais il n'avait jamais couru à Monaco. Et c'est un circuit où l'expérience est primordiale et les pièges nombreux. Il faut se souvenir que la saison dernière, alors qu'il n'avait disputé que 9 Grands Prix dans une très modeste écurie, Manor, avec une voiture qui avait vraiment des difficultés, une écurie sans moyens, il avait également terminé toutes les courses. Alors évidemment, il n'avait pas pu marquer de points, mais il avait signé quelques dépassements, quelques belles actions. Et surtout, il avait terminé toutes les courses. Donc comme tu le disais, sa grande force, c'est sa constance. Et évidemment, lui, il a l'ambition de terminer sur le podium. Il aurait envie que cet apprentissage se déroule plus vite. Il n'en demeure pas moins que s'il fallait déjà tirer un bilan de sa première saison complète en Formule 1, il serait évidemment positif avec donc cette constance, des points, et puis la pression qu'il a réussi à mettre à un vieux roublard de la Formule 1, un type qui est là depuis 7 ans, expérimenté, qui lui a signé des podiums, qui est Sergio Pérez.
Et oui, et qui est à ses côtés. Alors justement, je regardais le classement général provisoire du championnat après ce Grand Prix de Malaisie, et bien Esteban Ocon a porté son total à 57 points, 76 pour Pérez, qui a mené un très beau Grand Prix, il faut le dire aussi, hein, puisque là, Sébastien Pérez, il a été un peu solitaire, mais il termine au 6e rang. On vous a dit qu'on s'intéressait aux Français, et bien l'événement pour nous Français, c'était l'arrivée attendue, très attendue, attendu par lui et par nous de Pierre Gasly. Pierre Gasly qui était champion donc de Formule 2, de GP2, qui est parti en Super Formula, missionné par Red Bull et qui est revenu là à la place de Daniil Kvyat. Il a mené un Grand Prix solide, Pierre Gasly, et évidemment, Louis l'a rencontré. Écoutez.
C'était bien, forcément, premier départ, c'était beaucoup d'émotions et voilà, j'ai essayé de faire du mieux possible. Ça a été un petit peu compliqué. Surtout, on n'avait pas le système de boisson dans la voiture, il était pas connecté, donc je fais toute la course sans eau. J'étais pas super à l'aise non plus, donc j'ai essayé de tout donner, pas faire d'erreur, essayer d'aller jusqu'au bout pour prendre de l'expérience. Et je pense que ça a été bien de finir pour progresser.
Ben voilà, c'est carton plein, Adrien. On pouvait pas lui demander mieux. Hein. On savait que entrer dans les points, ce serait compliqué. Et puis sa référence, tant qu'il a été là, ça a été Carlos Sainz. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il était du niveau.
Oui, il a pas fait d'erreur de tout le week-end, surtout Jean-Luc. Et puis il a devancé Carlos Sainz en essai libre 2. Ensuite, il était légèrement derrière en Q1. Il a été très bon avec une huitième place, nous sortir un très beau tour, même s'il a pas réussi à le refaire en Q2, mais il était tout juste derrière Carlos Sainz. Et puis en course, il était clairement dans le rythme de son coéquipier, qui lui en mettait une belle couche à Kvyat. Donc directement dans le coup, mais on en attendait pas moins, pardon, de Pierre Gasly, parce qu'on ça fait 2-3 ans maintenant qu'il prépare cette arrivée en Formule 1. Il est dans le giron de Red Bull, il a été préparé de la meilleure des façons, il connaît bien la Red Bull, même s'il connaît moins bien la Toro Rosso. Voilà, beaucoup de simulateurs et etc. et pour Pierre, c'est super, parce que c'est un mec bien en plus, donc on est vraiment heureux de ce début, et maintenant il va peut-être pouvoir aborder le deuxième Grand Prix avec encore un peu plus de sérénité, et pourquoi pas sur un circuit qui conviendrait peut-être un peu mieux à la Toro Rosso, avoir comme objectif les premiers points.
Oui, et puis comme tu le soulignes, c'est un type très sympa. On l'a régulièrement dans Motors, hein, on l'a eu très régulièrement, Pierre Gasly dans Motors, donc on est vraiment ravis pour lui. Et puis Louis, on peut dire que au Japon, il va être un peu dans son pays finalement, Pierre Gasly, puisqu'il roule en Super Formula, on l'a dit. Alors, il est assuré de disputer le Grand Prix du Japon. Pour le reste, on ne sait pas, Louis, mais c'est sûr qu'avec de bons résultats comme ça, Toro Rosso va avoir envie de le garder, hein.
Absolument. On a un petit doute, notamment concernant le Grand Prix des États-Unis, parce qu'au moment du Grand Prix des États-Unis, Pierre Gasly pourrait jouer le titre en Super Formula japonaise, et évidemment, c'est important pour Red Bull que Gasly soit titré dans cette catégorie, ou au moins qu'il joue cette chance. Donc, ouais. Peut-être, sans doute, reverra-t-on Daniil Kvyat aux États-Unis, mais depuis le temps que Gasly attend son tour, faut se rappeler qu'il a été à deux doigts d'être titularisé dès le début de saison, hein, parce que Daniil Kvyat déjà était dans l'œil du cyclone après des performances en Dancy l'an passé. Il a finalement été conservé pour des raisons d'ailleurs qui tiennent autant au marketing, à l'économie qu'au pur sportif, même si c'est un pilote qui a un certain talent. Et donc Pierre Gasly, pendant ce temps-là, a un peu rongé son frein. Il avait peur que cette compétition japonaise soit une forme d'exil, un exil sans retour. Et finalement, Red Bull a continué à lui maintenir sa confiance. Vous savez qu'il est très proche d'Helmut Marko. Il y a eu un dîner important entre ces deux hommes à Bakou. Pierre Gasly était là en qualité de pilote réserve de Red Bull en Azerbaïdjan. Marco lui a dit « Patiente, ton tour va arriver, on a confiance en toi ». Et preuve en est, parce que Gasly est aujourd'hui dans cette voiture, il a toutes les chances d'ailleurs d'être titularisé la saison prochaine à la place de Daniil Kvyat. Et finalement, ce départ au Japon pourrait lui servir, c'est lui qui me l'expliquait là en début de week-end, parce que vous savez que l'année prochaine, Toro Rosso sera motorisé par Honda, et Gasly le dit sans détour « Cette année m'a permis de comprendre le fonctionnement des Japonais, d'apprendre à travailler avec eux, et ça pourrait être aussi une aide précieuse dans le cadre d'une future collaboration l'an prochain. »
Eh oui, effectivement, une aide précieuse. Allez, il nous reste quelques minutes, on va en profiter pour écouter un francophone. Eh oui, c'est pas un pilote français, on va pas se l'attribuer celui-là, mais bon, il parle parfaitement français, il s'appelle Stoffel Vandoorne, et malfois, il réalise de très très belles performances aux commandes de sa McLaren Honda, puisqu'il a rien moins que pris l'avantage sur Fernando Alonso en qualification et en course. Adrien, on va l'écouter au micro de Louis Amar. Stoffel Vandoorne, là, qui est en train de capitaliser. Ah oui, autant pour moi. On devait commencer par Romain Grosjean, et oui, j'allais un peu vite en besogne. Romain Grosjean qui a réussi à arracher la 13e place à Pierre Gasly en bataille au dernier moment. On va écouter Romain Grosjean, pas très content de son week-end en course.
On a fait les mauvais choix dès le début du week-end sur les réglages de la voiture, et qu'on a payé, ça a été une course longue et difficile. Honnêtement, on a pas fait les bons choix, et je m'inclus clairement dans ce qu'on a fait avec l'équipe. Hein. Je pense qu'il faut qu'on apprenne nos journées de week-end, qu'on avance, parce que parce que dès le deuxième tour, je savais que voilà, la voiture n'était pas là. C'est absolument pas plaisant à conduire et du coup, c'est vrai que la course paraît longue de l'intérieur. Donc encore une fois, je le dis, je pense qu'on n'a pas fait les bons choix techniques ce week-end, mais on va analyser un petit peu le process de comment on est arrivé là et pas faire les mêmes erreurs en Japon.
Eh oui, pas faire les mêmes erreurs au Japon. Évidemment, il se bat toujours avec une voiture un petit peu récalcitrante et un Grand Prix Adrien qui a été très compliqué là pour Romain Grosjean. On l'a vu frictionner aussi, éjecté de la trajectoire. Enfin, il a dû se battre comme un chien pour. Il n'est pas rentré dans les points malheureusement.
Ouais, effectivement, et comme il le dit très bien, c'est pas très plaisant quand on a une voiture avec laquelle on est en difficulté, qui n'apporte pas la performance espérée. On a en plus tendance à surconduire. On se bat forcément parce que Romain est un combattant. En plus, son coéquipier Kevin Magnussen était juste devant, donc c'était important pour lui de donner le meilleur de soi-même. Mais voilà, un Grand Prix à oublier, tirer les enseignements comme il le dit pour réussir à ne pas faire les mêmes erreurs sur le plan technique, parce que c'est sur le plan technique que la voiture n'a pas fonctionné apparemment d'un point de vue de son équilibre.
Allez Louis, tu vas mettre le cap sur le Grand Prix du Japon, donc on le sait, le tracé de Suzuka qui est un tracé étalon également, un peu au même titre que Spa-Francorchamps, un tracé que les pilotes adorent. Alors effectivement, la grande question c'est de savoir si très loin de leur base, les Mercedes vont avoir retrouvé de la compétitivité ou au contraire, si les Ferrari vont être épargnés par les problèmes mécaniques.
Exactement, ça va être la grande inconnue, la grande équation du Grand Prix du Japon le week-end prochain, hein, parce qu'on enchaîne, la tournée asiatique se poursuit et c'est dès dimanche prochain que vous nous retrouverez pour le Grand Prix du Japon. J'ajouterai une inconnue aussi concernant Red Bull, parce que est-ce que Daniel Ricciardo et Max Verstappen vont être en mesure de continuer sur leur lancée, de maintenir leur très bon niveau de forme et de performance au Japon? Ce n'est pas impossible, hein, c'est un circuit qui pourrait leur convenir, donc ça sera extrêmement intéressant à souligner. Et puis le Japon, au-delà de son circuit, de ce tracé mythique, de quelques enchaînements de légendes, c'est aussi une ambiance unique avec des fans partout, complètement fous, complètement fans, absolument. Et donc il y a vraiment un tout, une ambiance qu'on peut retrouver par exemple à Silverstone ou à Monza. On a vraiment l'impression quand on est au Japon d'être dans le cœur battant vraiment de la Formule 1. C'est une date incroyable et on a tous hâte d'y être, parce qu'en plus ce Grand Prix sera très 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 important dans l'optique du titre mondial.
Et oui, ce sera très tôt le matin, il faudra être avec nous. Merci beaucoup Louis, on va te laisser mettre le cap vers le pays du soleil levant. Merci en tout cas d'être resté avec nous dans ces conditions difficiles. Merci Adrien pour cette analyse. On va faire un petit saut, tiens, du côté de Montpellier-Brive pour savoir si les brivistes ont réagi. Julien Landry,
c'est moins loin que le Japon, Montpellier.
Ah oui, c'est moins loin.
Pour toi en tout cas. Non, les brivistes n'ont pas réagi, mais ils font dos rond. Ils n'ont encaissé qu'un essai pour le moment dans cette deuxième période, un essai de pénalité suite à une mêlée surpuissante des Montpellierains. Ça fait donc 40-3 pour le MHR et les Montpellierains qui sont dans les 22 mètres des brivistes, mais quasiment tout le banc montpellierain est rentré, donc ça a perdu un petit peu d'intensité cette rencontre. 40-3 pour le MHR, encore 15 minutes à jouer ici à Montpellier.
L'addition est lourde. Merci beaucoup Julien Landry. Allez, on va passer le volant, le guidon, comme on veut, à Jean-Christophe Drouet. Salut Jean-Christophe.
Bonjour Jean-Luc.
Bienvenue sur l'antenne de RMC pour la Terrasport. Je crois qu'on va parler un peu de F1, mais ce sera un peu plus tard.
Un peu plus tard, ce sera aux alentours de 15h30. Évidemment, je me suis régalé avec ce Grand Prix de Malaisie. Il y a beaucoup de choses à dire ce dimanche dans l'Intégral Sport. Ça débute dans quelques instants. Nous allons évidemment revenir sur cet accident qui est survenu à Amiens hier soir lors de la rencontre de Ligue 1 entre Amiens et Lille, une barrière du stade a cédé. Antoine Arlot est sur place pour toutes les dernières informations. Après-midi de direct également dans l'Intégral Sport. La Ligue 1 avec la fin de la 8e journée. Le rugby, on a vu avec ce match pour l'instant, oui, c'est sans suite hein, entre Montpellier et Brive. Et puis l'événement ce dimanche, c'est la plus belle course hippique au monde, le Grand Prix de l'Arc de Triomphe. Ce sera en direct à 16h05 sur RMC. Notez bien cet horaire. On va retrouver dans quelques instants d'ailleurs nos experts à Chantilly. A tout de suite pour l'Intégral Sport.
À tout de suite, effectivement. Salut à tous, merci d'avoir été avec nous dans Motors et pour le Grand Prix.